Salut et bienvenue sur The Inner Journey, le podcast présenté par moi-même, Amel. La mission de Tige est de bousculer les consciences. J'ai l'honneur de recevoir ici de super invités passionnés par leur domaine. On parlera de yoga, d'ayurveda, de bien-être en général, la société, la politique, le capitalisme, le girl power, le chamanisme et la spiritualité. Bien évidemment, il y aura plein d'autres sujets. Tout ça pour augmenter nos vibrations et reprendre le pouvoir. Sur ce podcast, on va parler avec authenticité, bienveillance et fun. Toujours. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux où je suis très active et vous partage davantage sur le yoga, l'ayurveda, les behind the scenes de ce podcast sur @tigebyamel. Merci infiniment d'écouter le podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une note sur Apple Podcast. Ça nous aidera énormément à faire connaître le podcast. Et je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que 2021 vous traite bien, même très bien. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, de mon côté, c'est assez rock'n'roll. Pas mal de choses niveau branding, du logo pour le podcast, pour le membership. Pas mal de choses qui se passent en arrière-plan, quoi. Mais c'est super excitant et donc... Je suis assez heureuse et merci d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Aujourd'hui, je vous propose une interview que j'ai faite d'Anya. Alors, comment Anya est entrée dans ma vie ? Donc, moi, je suis une grosse stalkeuse. Je l'ai trouvée sur YouTube, en fait, il y a 2-3 ans. À l'époque où elle faisait des vlogs sur YouTube de ses voyages. Donc, elle a fait un tour du monde en 2 ans, il me semble. Donc, j'ai commencé à la suivre là, ensuite je l'ai suivie sur Instagram. À mon retour de mon voyage à moi, qui a duré quand même presque 1 an et demi, je l'ai contactée parce qu'elle faisait des rituels de lune. Donc, j'ai participé à un de ces rituels de lune que j'ai beaucoup aimé. Donc, Anya, elle en fait pas tous les mois, mais elle en fait. Donc, regardez son Instagram partir au loin. Voilà, pour rester au courant de ce qu'elle fait, excusez-moi, de ce qu'elle met en place. Donc, pour en revenir à Anya, on a fait un épisode, on a enregistré l'épisode, il a duré 1 heure et demie. Donc, connaissant la faculté d'attention qu'un être humain en 2021 peut donner, je me suis dit qu'il y avait plus de chances de partager ces informations et qu'elles soient absorbées si je coupe l'épisode en 2. Excusez-moi, je ne doute pas de votre faculté d'attention, mais disons que je me suis reposée sur les faits et sur ma propre expérience et sur moi-même. Voilà, j'avoue que 1 heure et demie d'enregistrement d'un podcast, je trouve ça long. J'aime bien 45 minutes. Dites-le moi sur Instagram quelle est la longueur qui vous convient. Je pense que je ferai un sondage. Voilà, donc j'ai pas voulu qu'il dure très longtemps. Du coup, je l'ai divisé en 2. La première partie, cet épisode-là, sera sur la médecine d'aujourd'hui, la médecine moderne, la naturopathie, les médecines ancestrales. On va parler aussi de ses frustrations dans ses études de médecine et avec ses camarades, parce qu'il faut savoir qu'Anya est étudiante en médecine, mais également étudiante en naturopathie. Du coup, ça donne quand même pas mal d'espoir sur une médecine intégrative, c'est-à-dire la médecine moderne qui s'allie à la médecine traditionnelle, voilà, qui relie le corps, l'âme et l'esprit. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la médecine allopathique, on traite surtout le symptôme. On ne traite pas spécialement la cause. Voilà. On parle aussi du Coco-19, donc j'ai décidé de baptiser le virus Coco-19. Je sais pas, pour moi, mentalement, ça me permet de lui donner un pouvoir moindre. Donc je crois à 100% en l'effet de la pensée créatrice. Donc voilà. On parle également du fait que physiologiquement, enfin biologiquement, on est tous différents. On parle aussi des différents types d'alimentation et à quel point c'est super important de tester et que il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je reçois Ania, que j'ai le plaisir de vous introduire à toutes et à tous. Alors, Ania, est-ce que tu veux bien te présenter?
Salut Amel, écoute, déjà merci de me recevoir sur ton podcast. Je m'appelle Anya, j'ai 25 ans. En ce moment, j'étudie la médecine, je suis en troisième année en fac de médecine et à côté, j'étudie la naturopathie. Comment me présenter plus? Je ne vais pas me définir juste par rapport à ce que je fais, je vais te dire peut-être des trucs que j'aime. Mais ça a un rapport avec la médecine de toute façon. Ce que j'aime, c'est tout ce qui est dans le bien-être, dans le soin, dans les relations par rapport aux autres. Ça me passionne. Je suis aussi passionnée de voyage, de musique et de tout ce qui est lié au naturel. Voilà.
Oui, du coup, j'ai découvert Anya sur Instagram. Je la suivais en fait sur ses vidéos YouTube également de voyage. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à aller en voyage? Et je sais que quand tu étais en Amérique latine aussi, tu as fait des choses assez intéressantes que ben, dont on va parler aujourd'hui.
En fait, quand j'ai vécu dans une famille qui aimait bien voyager, qui aimait bien bouger, donc j'ai eu la chance de pouvoir partir assez souvent avec mes parents, pas forcément très loin, en Europe, dans ma famille, etc. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pu être pas mal. Enfin, j'ai pu pas mal bouger quand j'étais petite, donc j'avais déjà cette passion du voyage. Oh, ça me stresse, je fais plein de blancs et tout, donc.
Non mais tranquille, ne t'inquiète pas Ania, hein, relaxe-toi, prends une grande inspiration. Ania est stressée, hein. C'est ta première interview de podcast?
Ouais.
Ok.
En fait, ça me fait
Non
surtout
mais
bizarre de
du coup...
parler en face d'une. Tu sais, moi qui adore faire des vidéos, etc. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et ça me refait bizarre de parler en face d'un. Tu sais, de rien, tu sais, d'un vide. Il faut que je me connecte à toi, Amel,
Oui,
à travers
connecte-toi à
le
moi.
téléphone.
Voilà.
Donc, je disais, j'ai eu la chance quand j'étais petite de beaucoup voyager déjà avec mes parents et de beaucoup bouger. Et ça m'a donné cette bougeotte à fond. On partait vachement à la montagne, etc. Et ensuite, ça m'a vraiment suivi. Quand j'étais au lycée, voilà, je me disais, oh, mon rêve, c'est de partir en tour du monde, c'est de partir en tour du monde. Au final, après ma première année de médecine, que j'ai pu enfin partir en tour du monde
Et
et réaliser ce rêve-là.
pourquoi après ta première année de médecine?
Bah alors, je pense que fallait que j'avais besoin de temps déjà pour accepter l'idée que je pouvais partir. Parce que bah, moi, quand j'avais 16-17 ans, je me disais, je voyais ça comme un rêve en fait. Je voyais des vidéos de Alex Viséo, c'est genre le mec qui m'a le plus inspiré. Je voyais ses vidéos et je me disais, ah, mais lui, enfin voilà, il part en tour du monde, etc. Et moi, ça m'inspirait de fou. Mais en fait, je me disais que c'était pas vraiment accessible, que c'était pas possible. Je me demandais comment. Enfin, j'avais mes études, je savais que je voulais rentrer en médecine, etc. Donc, je le voyais pas trop possible. Et en fait, en médecine, la première année de médecine, c'est quand même une année assez difficile. Et je l'ai faite en 2 fois, et donc ça a été 2 années qui ont été assez lourdes. Et pendant ces 2 années, c'est vrai que je me répétais souvent, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de partir, et je sentais ce rêve de tour du monde devenir de plus en plus fort. Et en fait, jusqu'à la fin de ma deuxième première année de médecine, où là, je me suis dit, bon, je pars une première fois toute seule, et je suis partie sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, marcher 1 mois. Et en fait, ça a changé complètement. ça a cassé des barrières en moi, en fait. Et là, je me suis dit, ah, en fait, c'est complètement possible de partir voyager toute seule. Je me sentais d'un coup beaucoup plus capable. Je venais d'avoir, j'avais 18 ans, etc. Donc, tout devenait d'un coup plus possible, en fait. Et c'est ensuite, je suis rentrée donc en deuxième année de médecine avec vraiment cette idée de me dire, bon, bah, j'attendrai pas la fin de mes études pour partir en tour du monde. C'est vraiment un rêve que j'ai. C'est pas grave si je coupe mes études, je les reprendrai après. Et puis voilà, c'était vraiment, je ressentais cette urgence de partir en 2016, 2017, 2018. Je suis partie en 2017 de toute façon. Et donc 2016, en fait, j'avais cette urgence à fond de partir, partir, partir. J'avais que ça en tête. Et en fait, je me disais que ça allait me faire. Bien sûr, je disais, voilà, je rêve de découvrir d'autres paysages, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre, etc. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup plus que ça. Au final, je pense que je rêvais d'un temps avec moi-même, d'un temps à la découverte de moi-même, et c'est exactement ce que le voyage m'a apporté. Et
Je suis en train. Ouais,
ouais,
vas-y. Non,
vas-y,
vas-y,
non, vas-y,
continue.
vas-y. Parce que là, je me suis,
Non,
ça y est, je
mais
me suis
je
lancée.
me. Non, ça y est, on l'arrête plus, Anya. Elle avait besoin d'un petit échauffement, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Non, mais pourquoi t'es entrée en médecine? C'était quoi ton intention?
Alors moi, ça a commencé quand j'avais 4 ans. Je sais pas d'où c'est sorti. Je suis sortie de chez ma pédiatre en disant que je voulais être pédiatre. Et ensuite, donc il y avait déjà un truc un peu présent, etc. Et en fait, ensuite, c'est vrai que quand j'étais petite, même quand j'étais ado, quand j'avais 11-12 ans, et puis ensuite après, ça n'a fait que continuer. En fait, je m'intéressais vachement au corps humain, à comment, au bien-être, à comment se sentir mieux. Je me posais beaucoup de questions existentielles. Beaucoup de questions en fait sur mon corps, sur comment les choses fonctionnent, sur pourquoi je pense de telle ou telle manière, pourquoi je me sens comme ça. Et en fait, je lisais beaucoup de magazines, de revues de psycho, etc. Depuis toujours, quoi. Donc ça m'a vraiment, c'était quelque chose qui me passionnait toujours. Et ensuite, plus intimement, dans mon parcours de vie, j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que du coup, j'ai été aussi du côté patiente. Et ça m'a donné, quand j'ai vu des médecins qui m'ont aidé, etc., ça m'a donné envie, moi aussi, d'être de l'autre côté, d'aider les gens, d'aider des gens, en fait, après avoir reçu de l'aide de ces médecins. Donc voilà, c'était vraiment l'idée médecine, médecine, et je me disais, bah, c'est la médecine que je veux faire, quoi. Sauf que j'avais pas, en fait, quand j'étais ado, j'avais pas cette notion qu'il y avait peut-être d'autres médecines qui existaient en dehors de la médecine qu'on apprend à la fac, de la médecine allopathique, qu'on voit un peu tous les jours chez le médecin généraliste, à l'hôpital, etc. J'avais pas cette conscience-là totalement, en fait. Et du coup, c'est
Ouais, c'est
ensuite
comme
en fait.
l'Ayurveda. L'Ayurveda n'est même pas reconnue en France comme.
Ouais, bah oui, en fait, c'était des choses dont, je sais pas, je te parle, il y a 15 ans, moi, quand j'avais 15 ans, 13 ans, on ne parlait pas de ça. On me disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On ne me parlait pas, tu veux faire de la naturo, quoi. On me disait, est-ce que tu veux faire médecine,
Ouais.
avocat, tu vois, on ne parlait pas de ces métiers-là. Donc, j'avais vraiment cette idée que la médecine, pour moi, pour aider les gens, etc., c'était passer par médecine, quoi. Et en
Ouais.
fait, donc, je suis rentrée dans ce parcours-là, hyper, hyper, hyper motivée, hyper sûre de moi. J'avais vraiment, dans mes choix de bac, etc., j'avais juste mis médecine, quoi. Je pensais à rien d'autre, et d'ailleurs, ça faisait envier beaucoup de gens au
Déterminé.
lycée. Ah oui, c'est ça. Ça faisait vraiment envier des gens au lycée qui ne savaient pas vers quoi se diriger après pour la fac, etc. Et ils me disaient, mais toi, tu as trop de chance, tu sais ce que tu veux faire depuis toujours. Tu ne te poses pas de questions, quoi. Et en fait,
Ouais.
je pense que cette urgence du voyage, c'était aussi de me poser peut-être des questions par rapport à mon parcours, etc.
Et t'en
Et à
penses
mes
quoi
envies.
du parcours de médecine aujourd'hui? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Comment forment-ils les futurs médecins?
C'est une grande question. Bah, je vais te
Allez,
parler de
on
mon
veut du
expérience
gossip.
personnelle. Non, je vais te
On veut
parler
de la
plutôt de mon expérience
polémique.
personnelle parce que je pense qu'il y a déjà il y a autant d'expériences pour par étudiant en médecine. Je pense que chacun vit ses études de médecine très différemment, même si on est quand même un peu tous dans le même bateau et tous dans cette même galère et peut-être cette même pression. Mais aujourd'hui, bah là, pour reprendre, du coup, moi, j'ai repris mes études de médecine après mon voyage, mais avec vraiment beaucoup plus de questionnements. Et vu que pendant mes voyages, j'ai commencé à étudier la naturopathie avec une autre école, ça m'a vraiment fait voir les choses de manière différente. Et en fait, aujourd'hui, en médecine à la fac, ben, on nous apprend. Enfin, c'est vraiment la médecine allopathique, on nous apprend vraiment par symptômes, par organes, ensuite par spécialité. Et c'est très, très intéressant. Et de toute façon, c'est absolument fondamental pour ensuite connaître toute. Bah, la physiologie du corps, toute l'anatomie, toutes les pathologies qui sont associées. Donc c'est absolument fondamental. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment cet aspect émotionnel pris en compte, cet aspect des pensées, du mental, du pouvoir du mental, des énergies, etc. Et c'était vraiment quelque chose, alors, dont je ne me rendais pas compte avant, quand je suis rentrée en première année, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert pendant mon voyage encore plus, en fait, et qui ensuite me paraissait absolument indispensable à mon apprentissage de la médecine,
Tu trouves
de
pas ça
devenir.
frustrant que la médecine allopathique, enfin en tout cas tes études de médecine n'intègrent pas ben l'âme, on va dire, les choses un peu plus subtiles?
Bah, si complètement. Alors, si complètement. Moi, il y a plein de fois où dans mes études, surtout quand c'est difficile, quand on est un petit peu avant les partiels, etc., quand il y a beaucoup de pression, ça donne un peu envie de tout envoyer valser et de se dire, mince, moi j'ai envie d'avoir des cours plus humains. Alors, surtout en plus là, avec cette période, on est vraiment coupé de l'humain, etc. Donc, c'est très frustrant de se dire, bah voilà, j'apprends juste des trucs sur le corps humain, enfin, vraiment, je bachote quoi, des trucs sur le corps humain toute la journée dans mes bouquins, etc. Et il y a une sorte de connexion qui manque énormément. Donc ça, c'est très frustrant. Et je trouve que même dans ce qu'on peut apprendre, ça me manque cette relation à l'émotionnel. Moi, j'ai vraiment, j'aime bien travailler avec les émotions, etc. Et du coup, ça me manque. Vraiment ce lien avec la personne. On n'a vraiment que le corps et la physiologie du corps, etc. Mais en fait, heureusement au final que je le retrouve dans mes études de naturopathie et dans tout ce que j'apprends à côté, puisque je me forme aussi en gynécologie holistique avec Marie-Pénélope Pérez. J'apprends, enfin, je me forme au bol tibétain. Donc en fait, toutes ces choses à côté me permettent en fait de tenir et de complémenter en fait mes études de médecine.
Et tes collègues médecins, ils sont dans quel... Bon, on peut pas généraliser, mais est-ce qu'il y en a qui sont à peu près, qui pensent à peu près la même chose que toi? Est-ce que tu penses que une armée de médecins qui combinent avec la médecine traditionnelle va apparaître?
J'aimerais bien. Bon, alors je sais pas si j'appellerais ça une armée, mais peut-être des alliés, oui, je sais pas, mais en tout cas, oui, j'aimerais beaucoup que ce soit qu'il y ait beaucoup plus de liens en fait entre les médecins allopathiques et les, je sais pas, les naturopathes, les médecins ayurvédiques, les... Bon, c'est déjà, de toute façon, c'est en train de se faire. Je pense qu'on est complètement sur ce chemin-là. Mais voilà, moi j'aimerais que ça avance plus vite et je vois aujourd'hui. Qu'à la fac ou qu'à l'hôpital, je suis quand même en décalé avec la majorité des gens. Mais c'est pas grave, je le prends pas du tout. Enfin, enfin voilà, je m'adapte complètement en fait. Mais c'est vrai que je parle pas des mêmes choses. Enfin, j'y trouve pas les mêmes centres d'intérêt. Ou moi, de manière générale, je vais avoir plutôt des centres d'intérêt pour le corps enfin vraiment du côté du bien-être, dans la douceur, la compassion, du yoga, des pratiques de méditation, de sophrologie, etc. C'est ça qui me porte. Alors que. Et en fait, toutes les connaissances à côté en médecine viennent s'ajouter à ça, mais c'est vraiment ce bien-être, cette douceur qui me porte. Alors que, par exemple. Enfin, typiquement, c'est marrant, un peu mes journées sont rythmées un peu bizarrement, mais là, par exemple, hier matin, j'étais au bloc opératoire, et en fait, à un moment, il parlait de proposer des cours de yoga, etc., bah pour l'équipe, quoi, pour l'équipe du service, et c'est vrai que c'est pris en rigolant, ou c'est encore un peu nouveau, en fait, tout ça. C'est encore. Alors que pour moi, c'est des choses qui vraiment font partie de mon quotidien et qui sont essentielles pour mon bien-être et pour ensuite le bien-être de l'autre et de la personne. Aujourd'hui, je me sens encore un peu en décalage. Je parle pas des mêmes choses avec les gens de la fac qu'avec mes copines de bien-être et de naturo, quoi. Donc.
Ouais. Non mais je te comprends totalement. Moi j'ai un oncle qui est médecin et il est complètement fermé à tout ce qui est Ayurveda. J'ai même un ami qui plus ou moins pense que l'Ayurveda c'est une secte. C'est
Ah mince,
le
c'est dommage.
yoga encore plus quoi, tu vois. Ouais, et j'ai mon
Ouais.
cousin qui est en études de médecine en première année. Et pour lui, c'est totalement du bullshit que la pensée puisse influencer. Enfin, genre, par exemple, que ça puisse influencer un cancer, quoi. Tu
Oui.
vois? Il se
Ouais.
dit que non, ce n'est pas possible. Et au final, je me dis, moi, ça a été une grande leçon. Je me dis qu'au final, il n'y a personne qui peut guérir mon corps à part mon corps. Genre,
Eh ben, c'est
il
ça, en
sait.
fait.
Et tu reprends complètement ton pouvoir, quoi. Enfin, ça fait peur pour
Complètement.
les médecins. Enfin, je veux dire dans le sens où tu ne sais plus en qui tu peux avoir confiance. Est-ce que tu peux avoir confiance en un médecin? Et à côté, tu te dis, bah, en fait, mon corps, il a quand même une force de guérison incroyable. Et j'ai même un ami qui pense qu'en fait, c'est les médicaments qui nous guérissent. Je dis, mais. Et ça, c'est le fruit de l'éducation
Ouais,
nationale.
occidental.
Enfin, occidental, ouais. En fait, il pense que le corps ne sait pas se guérir tout seul. Genre, en gros, toute notre vie, toute l'humanité a attendu l'avènement de la médecine moderne pour vivre. Et les gens sont, beaucoup, j'en suis sûre, sont persuadés qu'en fait, on vit beaucoup mieux maintenant qu'avant. Sauf qu'en fait, pas du tout. Enfin, c'est vrai
Ouais.
qu'on vit plus longtemps, mais on vit pas
Ouais,
mieux.
dans quelles conditions, ouais. Bah, c'est sûr, bah alors, bon, c'est sûr qu'il y a eu tous les progrès de la médecine, etc., et qui sont pas négligeables en chirurgie, dans les
Non,
urgences,
évidemment.
dans les médicaments, etc. Mais c'est vrai que voilà, cette importance pour moi de la pensée, de l'esprit, du corps qui parle, des émotions, de l'invisible, etc., des énergies, tout ça a pour moi énormément son importance. C'est pas forcément pris en compte bah, là à l'hôpital dans le quotidien, mais c'est pas grave en fait quand en fait j'ouvre des débats, je pose des graines de temps en temps et puis j'essaye de pas me m'offusquer quand c'est pris en rigolant. Enfin, moi je suis du genre à arriver à l'hôpital le matin et à savoir que c'est, je sais pas, c'est la nouvelle lune ou que dans le ciel en ce moment c'est un peu tendu ou je sais pas quoi, et ça se ressent en fait, ça se ressent, et moi je suis du genre à lâcher une remarque du style bah ouais c'est parce qu'on est, c'est la pleine lune ou un truc comme ça, et on me regarde style ah non mais moi je crois pas du tout à ce genre de bullshit, et en fait moi je le prends en rigolant, et donc je passe pour je sais pas pourquoi je passe en fait, mais je m'en fiche au final,
L'illuminé de
je
service.
ouais, enfin, je sais pas, tu vois, mais au final, je m'en fiche, je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Et de toute façon, en fait, c'est quand même en train d'arriver. Enfin, c'est quand même. Je vois justement quand hier au bloc opératoire, l'équipe parle de faire du yoga, etc. Même si c'est parlé, c'est en rigolant. Et même si il y en a qui disent, ah, bah, alors moi, j'ai jamais fait de yoga la dernière fois que j'ai essayé. Enfin, en fait, je sens quand même qu'il y a une sorte d'ouverture et que. Plus ça parle et plus on en parle, et en fait, plus ça attise la curiosité, et du coup, les gens curieux vont peut-être se mettre à découvrir des nouvelles pratiques comme ça, et voilà, ça va avancer comme ça, en fait, je pense. En tout cas, j'espère.
Et Tu saurais expliquer cette condescendance envers les médecines traditionnelles et tout ce qui vient du subtil et du spirituel, on va dire? Le fruit de l'éducation,
Oui,
la
bah, je
société
pense qu'il y a
occidentale.
ça, il y a peut-être de la peur aussi.
Ouais.
De la peur
Bah en
parce
fait, moi j'ai
que
une.
reprendre son pouvoir, oui, vas-y.
Ben, moi, j'ai une théorie. Je me dis qu'en fait, ce sont les big pharma, les entreprises pharmaceutiques, les compagnies pharmaceutiques qui, pendant des dizaines d'années, ont essayé de faire en sorte de rendre obsolètes toutes les médecines traditionnelles pour derrière mettre en place leurs médicaments et nous les vendre. Et du coup, bah, ça s'est passé par, du coup, ces entreprises pharmaceutiques, elles vont payer les politiques. Et ces politiques, eh ben, en gros, ils façonnent l'éducation nationale en fonction de leurs intérêts économiques, quoi.
Bah oui, enfin, de toute façon, ça, au final, ça a tout à voir. Là, tu as posé des noms et des mots un peu plus précis, mais au final, ça a tout à voir sur le fait, et je pense que c'est ce qu'on a un peu travailler cette année collectivement et intimement, c'est à voir avec le fait de qu'est-ce qui nous dirige, est-ce que c'est l'extérieur, est-ce que c'est un gouvernement, est-ce que c'est des labos pharmaceutiques, est-ce que même c'est un médecin? Parce qu'en fait, moi, c'est quelque chose que enfin, je me suis beaucoup questionnée, en fait, de notre propre pouvoir. Comme tu disais, parfois, il y en a qui pensent que c'est les médicaments qui les guérissent. Et qui se rendent pas compte en fait de leur propre pouvoir. Je pense que tout ce dont tu parles, c'est par rapport au pouvoir qu'on a laissé à l'extérieur, sans en fait en oubliant un peu notre propre pouvoir, qui est aussi notre propre pouvoir de guérison, d'auto-guérison du corps. Et je reviens par rapport à ce que tu as dit avant. Le corps. Justement, et je le vois encore d'autant plus à l'hôpital quand par exemple on est au bloc, etc., où je vois à quel point le corps il est fort et à quel point il peut se régénérer rapidement, mais à quel point aussi il peut être au plus bas en fait. Et il y a vraiment cette puissance, mais qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a pas, enfin, qu'on a plutôt laissé jusque-là au gouvernement, à des labos, à quelque chose d'extérieur, quoi.
Ouais, c'est. En tout cas, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie d'ajouter que il est très important qu'on reprenne notre pouvoir et qu'on dise au gouvernement qu'on en a marre qu'il pollue notre planète parce que le fait qu'il pollue la planète, il pollue aussi derrière notre santé parce que c'est la nature qui nous donne en partie la santé.
Ouais, complètement. Mais je pense qu'en fait, quand tu dis par dire, voilà, c'est ça, c'est reprendre notre responsabilité par rapport à notre propre pouvoir personnel, mais ça se fait aussi dans l'action de tous les jours, dans l'action, dans nos actions à nous. Et c'est par exemple par le simple fait que plutôt que d'aller voir son médecin généraliste et d'attendre qu'il nous donne un médicament pour soigner notre problème, et il n'y a pas de souci, on peut aller voir son médecin généraliste et qui nous donne un médicament, mais peut-être avec une posture plus active, peut-être en se demandant, ok, bon là, j'ai pris un médicament pour m'aider sur ce truc. Mais tiens, peut-être que ça revient souvent quand même, ça. Est-ce que je pourrais pas voir si je pourrais pas, en plus de prendre ce médicament, peut-être améliorer mon alimentation aussi et voir, enfin, des choses comme ça
Quelle
en
est la
fait.
cause?
Oui, voilà, revenir à la cause et puis vraiment. Se remettre en action en fait, pas
Posture
attendre que
active, oui.
l'autre, voilà, que l'autre, donc que le médecin, que la société, que le gouvernement, que je ne sais qui de l'extérieur nous soigne, nous guérisse, nous aide.
Et voilà.
Et ça, c'est un truc que je trouve qu'on a souvent ici, quoi, c'est qu'on attend un peu. Je reprends l'exemple par rapport à la médecine, etc. Et par rapport à ma propre expérience, c'est que en fait. Moi, j'ai pu attendre aussi souvent de l'extérieur, du médecin, quand j'ai par exemple été du côté patient, des réponses, des solutions. Un peu, je voulais que ce soit prêt sur un plateau, quoi. ça n'allait pas. Et je voulais que le médecin me dise, bah, t'as ça, je te donne ça et tu vas aller mieux. Sans que moi je fasse rien, en fait.
Ouais.
J'ai compris que ça n'allait pas se passer comme ça. Et en fait, j'ai compris que la seule personne qui vraiment pouvait m'aider, c'était moi. Et qu'en fait, le médecin, il était là à côté juste pour m'accompagner, me soutenir, que ce soit par des médicaments ou par des plantes, enfin n'importe en fait le moyen. Mais si j'ai bien compris que si j'étais pas dans cette posture active et dans cette responsabilisation, personne en fait n'allait m'aider à l'extérieur. Je pouvais que m'aider moi-même. Et je pense que ça, c'est vraiment ça aujourd'hui sur lequel, enfin, c'est vraiment sur des choses sur lesquelles on a travaillé peut-être en 2020, etc. De se dire,
Ouais.
bon ben voilà, les labos, ils ont peut-être pas, on va peut-être arrêter de se faire contrôler par des labos, et on va
Ouais,
peut-être,
et
au
puis.
lieu d'attendre que le médicament fasse
Oui, et
un
puis on
effet, on va
sait.
peut-être, oui, vas-y.
Ouais, ça c'est avec le vaccin, et puis avec le confinement, on s'est aussi rendu compte à quel point notre mental pouvait nous poser de sérieux problèmes, quoi.
Complètement. Mais à quel point il pouvait être puissant aussi, en fait. C'est dans les deux sens au final.
Ouais,
C'est
ouais.
à quel point en fait il peut nous emmener dans un sens qui nous fait perdre tout notre pouvoir et tout notre potentiel, et à quel point de l'autre côté qui peut nous rendre malade, que ce soit par des maux physiques ou par des maux psychiques, des maux physiques, je sais pas, des maux de ventre, des problèmes, des troubles chroniques, des pathologies chroniques, des problèmes d'immunité, etc. Ou que ce soit psychique, de dépression, de tristesse, de burn-out. Donc le mental, il peut nous amener dans ce côté-là, en fait. Mais il peut nous amener aussi dans l'autre côté, qui est de retrouver notre pouvoir personnel, de nous reprendre en main, oui, nous reprendre en main, en fait. Je pense que ça tient qu'à un mot. J'essaye de donner des exemples à chaque fois, de dire, ben voilà, dans l'alimentation, aller choisir, on a choix à chaque fois d'aller choisir différentes nourritures. Donc en fait, c'est notre choix, c'est pas là le gouvernement qui nous dit, ben non, tu vas manger de l'industriel. Lui, il nous le propose, entre guillemets, mais on a quand même le
Ouais.
choix de faire autre chose. Et c'est ça, reprendre le pouvoir personnel.
Ouais. T'as un avis, toi, sur le vaccin?
Bah personnellement, je
Bon,
ne
t'es
serai
pas
pas
obligé d'être su.
vacciné.
Bon, moi, c'est clair.
Voilà, enfin, moi, personnellement, j'ai jamais. Je me rends compte maintenant que j'étais bien conscience que oui, il y avait toute cette histoire du coronavirus, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, c'est comme si j'y croyais pas. Je me disais, mais en fait, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, je ne crois pas à ce virus, pas dans le sens où il n'existe pas, mais je ne crois pas, je n'y crois pas en fait, je ne crois pas à son pouvoir sur moi.
Oui, t'es en dissonance cognitive, un
Voilà,
peu.
et du
T'as
coup, en
l'impression
fait,
que...
ça fait que... Ouais, vas-y.
Ouais. Non, mais je vis la même chose que toi. J'ai l'impression de voir tout le monde paniquer. Et moi, je suis là à juste accepter les choses tranquille
Ouais.
et à continuer ma vie.
En
Genre,
fait, c'est
sans trop
ça.
me poser de
C'est que,
questions.
enfin, voilà, c'est ça. C'est que, enfin, moi, je me suis jamais dit, en fait, j'ai jamais eu peur de l'avoir ou quoi. Et en fait, le fait de pas croire à son pouvoir, bah, pour l'instant, ça
Ça
va. J'ai eu de
l'annule
la
un peu.
chance, en tout cas. Bah, enfin, voilà, je me demande, en fait. Parfois, je me dis, bah, en fait, j'ai pas envie de me faire vacciner parce que pourquoi je me ferais vacciner sur quelque chose enfin. Contre quelque chose dont je n'ai pas peur, en fait.
Ouais.
Je sais pas vraiment comment l'expliquer, poser les mots, mais en tout cas, j'ai beau voir la situation en face de nous, qui est bien réelle, etc. Je n'autorise pas, en fait, à ce que ça m'impacte. J'ai pas envie d'y croire pour ne pas recevoir tout simplement un virus en moi, quoi.
Ouais, et ils en pensent quoi un peu qu'est-ce qui se dit à l'hôpital dessus? Est-ce que vous êtes est-ce qu'il y a deux écoles, les pro et les
Bah,
anti-vaccins
oui, à
dans
l'hôpital, bah, en fait,
ton cercle?
ça. Enfin, déjà, c'est des trucs dont on parle pas trop en général, parce que, bon, entre étudiants, etc., on n'a pas trop le temps. Et puis en fait, ça rentre vite dans des sujets, dans des débats.
Ah, c'est quand même assez divisé.
Oui, complètement. Ou en tout cas, moi, je suis
Ok.
assez divisée par rapport à l'opinion. Mais en tout cas, moi, du coup, je rentre pas dans ce débat parce qu'en fait, je sais que je suis pas forcément d'accord avec ce qui se dit. Et donc, je préfère tout simplement ne pas rentrer dans le débat et continuer en fait à être bien, à faire ma vie, voilà, à me nourrir de choses positives plutôt que de rentrer dans un débat qui va venir peut-être chercher des choses négatives, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, les praticiens à l'hôpital se sont fait vacciner, il y en a qui se sont fait vacciner, et puis les étudiants autour de moi, non, c'est plutôt non pour l'instant,
Ouais,
et on n'a pas assez
c'est
de recul,
dingue.
quoi, enfin,
Bah, je me
je sais
suis
pas,
dit
en
que
tout cas,
quand
moi,
même
je...
à l'hôpital, ils étaient peut-être un peu moins, enfin, genre, qui n'étaient pas payés par de grands organismes, donc peut-être qu'ils seraient un peu plus contre, je me suis dit, mais bon, apparemment, c'est divisé,
Après,
donc.
enfin, je voilà, c'est ça. Et puis je sais pas du tout l'opinion de tout le monde parce que, comme je t'ai dit, j'en parle pas forcément. Mais
Ouais.
après, il y a aussi tout simplement le manque de connaissances, en fait, dans le sens où moi, je sais que en tant qu'étudiante en médecine, je sais qu'autour de moi, les étudiants en médecine, ils ont pas, enfin, ils ont pas forcément. Moi, j'ai fait le choix d'aller vers d'autres études, d'autres parcours et de me former à côté. Mais en fait, la majorité des étudiants n'ont quand même enfin, ils n'ont pas le temps, on n'a pas le temps en fait de s'ouvrir à d'autres choses, d'aller voir d'autres choses. On est dans nos bouquins de médecine et on apprend ce qu'on nous dit d'apprendre. Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le temps de se poser des questions. Et donc ça, c'est un peu problématique parce que du coup, on apprend comme ça et en fait, c'est un peu après qu'on ait tout appris, donc après nos années d'études, que on peut se dire, bon, bah là maintenant, je vais peut-être ouvrir les yeux et essayer de me poser des
Ouais.
questions et critiquer ce que j'ai appris.
J'avais une copine qui me disait la même chose, mais par rapport à Sciences Po. Elle me disait que en fait, on nous disait de recracher tout ce que le prof disait sans qu'il n'y ait aucune critique ou aucune valeur personnelle, quoi. Enfin, un avis personnel. Pas de réflexion, en fait.
Bah c'est ça, c'est que voilà, du coup, en fait, au niveau des étudiants, bah, il n'y a pas forcément le temps à la réflexion, ce qui est tout à fait normal vu la quantité de choses à ingérer là pour l'instant. Mais en fait, je peux comprendre le choix de certains étudiants de ne pas se poser de questions, d'y aller là et d'apprendre ce qu'il y a à apprendre. Et puis voilà quoi. Moi, ça n'a jamais été dans ma nature. Comme je te disais, j'ai toujours été à me poser 10 000 questions et alors encore plus des questions existentielles, etc. Donc voilà, j'ai fait le choix de à côté me dire bon bah je vais essayer de critiquer, de voir, d'ouvrir d'autres bouquins, de lire d'autres choses pour avoir différentes opinions et de pas me contenter juste de mes bouquins de médecine.
Ouais, et puis je pense que la pause voyage t'a pas mal aidé.
Oui, complètement, oui.
Et la
Complètement, je pense que
naturopathie,
c'est.
tu... Ouais.
Ouais, vas-y.
Non, la naturopathie, tu l'as rencontrée pendant tes voyages?
Bah alors, je l'avais rencontré avant la naturopathie parce que, comme je te disais, bah, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont fait.
Ah,
C'est marrant parce
d'accord.
que pendant les 2 fois, j'ai bugué dans les soucis de santé, donc je trouve ça marrant. Et donc, en fait, bref, c'est une aparté. Je disais qu'en fait, moi, donc, je me suis tournée vers la médecine allopathique et puis, j'ai pas forcément eu de réponse adéquate parce que bah, c'était chronique ce que j'avais, enfin c'est chronique. Et donc ça a fait que je me suis en fait toute seule, moi, de mon côté, tout en continuant mes études, etc., bah, tournée, avant de voyager, hein, je te parle, je me suis déjà tournée vers des kinés, des ostéos qui pensaient peut-être déjà un peu différemment, etc. Qui petit à petit m'ont fait découvrir la relaxation, puis la naturopathie. Et en fait, c'est comme ça que c'est moi, en fait, en ne trouvant pas de réponse dans la médecine allopathique pour ma propre santé, que je me suis tournée vers des médecines alternatives, complémentaires, vers d'autres solutions, en fait, vers d'autres pistes. Et du coup, j'avais donc déjà rencontré une naturopathe avant de partir voyager. Et j'étais déjà à fond dedans en fait. L'année avant de partir voyager, j'avais déjà fait un gros travail sur moi et j'avais déjà pas mal changé d'habitude, etc. De vie, j'avais pas mal intégré la naturopathie à ma vie et donc c'est vrai qu'en voyageant, c'est devenu encore plus présent en fait. Pas forcément la naturopathie en tant que telle, mais juste le bien-être, la façon de voir le corps différemment, de le prendre de manière plus holistique. Tout ça, ça a vraiment augmenté pendant le voyage. Et donc, j'ai découvert encore plus de choses, donc le chamanisme et d'autres. J'ai pu expérimenter vraiment plein d'autres choses, plein de pratiques, plein d'autres rituels, plein d'autres manières de soigner. Et donc voilà, c'est ce qui m'a poussé à continuer de toute façon et à m'inscrire en école de naturopathie pendant ma deuxième année de voyage à côté de mon voyage. Et puis ensuite, je me disais, voilà, à côté de mes études, c'est ce qui m'a poussé à
On
faire ça.
va en parler en détail. Juste une question sur la naturopathie. Qu'est-ce que c'est? Ben, pour ceux qui nous écoutent en tout cas. Si
Qu'est-ce que c'est?
ils ne savent pas ce que c'est, donc
Ouais.
est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Alors pareil, je vais essayer de le dire avec mes mots plutôt que de donner une définition de Wikipédia. Je dirais que c'est surtout en fait un art de vivre, une manière de vivre qui est en lien avec la nature. Et c'est de l'hygiène de vie, c'est de la prévention aussi, mais ça peut faire aussi du soin. Mais par
C'est plus
l'utilisation en fait.
préventif. Ah oui, ok, les deux.
Oui, alors c'est les deux, puisque les plantes, y a des plantes qui peuvent venir soigner, mais c'est aussi préventif parce que, en fait, c'est vraiment essayer de retrouver une santé optimale. Plutôt que de se baser sur des symptômes, la naturopathie, elle va essayer de chercher des causes à nos soucis de santé ou à notre manque de vitalité, par exemple. Elle va essayer de chercher les causes et donc de venir travailler sur notre terrain. Et pas forcément sur nos symptômes. Enfin,
Ok.
aussi sur nos symptômes, mais aussi sur notre terrain. Donc, elle va venir la naturopathie travailler plus profondément, pas juste en surface. Elle va venir travailler la cause de ce qui nous arrive. Et donc, pour ça, elle va utiliser plusieurs fondements qui sont l'alimentation naturelle, qui sont le sommeil, qui sont des pratiques de bien-être, de relaxation, de méditation, qui sont le mouvement, le sport. En fait, c'est vraiment revenir à une meilleure hygiène de vie pour retrouver une santé optimale et une meilleure vitalité.
Est-ce qu'il y a des archétypes, comme genre par exemple en Ayurveda?
Non. Enfin, alors,
Ok.
tu veux dire... Ah non, 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 tu veux dire des
Type
archétypes...
Vata, Pitta?
Oui, en fait, alors oui, je pensais à d'autres choses, mais en fait, oui, il y a, alors ça a été décrit par Hippocrate et par, enfin, il y a plusieurs, c'est les humeurs en fait, il y a le lymphatique, le coléreux, le bileux, et il m'en manque un, que là je retrouve plus là, mais, et le sanguin, voilà. Et en fait, c'est des humeurs, bon, aujourd'hui, la naturopathie, elle se base dessus, mais pas que là-dessus, au final. Parce que c'est moins présent, en fait, les archétypes que dans l'Ayurveda.
Ouais.
On va venir, en fait, plutôt que d'utiliser un archétype, on va vraiment venir se focaliser sur la personne dans son entièreté, par rapport à son histoire et à son terrain. Et en fait, en fonction de son terrain, son histoire, sa façon d'être, de vivre, de s'alimenter, de se bouger, etc., ça va venir nous faire penser à différents terrains qui ont été déjà décrits. Et donc, ça va nous donner des pistes de selon ce terrain-là, c'est plus adapté de manger telle ou telle chose, de se bouger de telle ou telle manière. Donc voilà, mais
J'ai l'impression que la naturopathie, elle a pas mal été propulsée par Irène Grosjean et elle recommande pas mal le cru. C'est vrai que ça, c'est un truc en Ayurveda qui n'est pas pour tout le monde. Et on en avait parlé aussi il y a quelques temps. enfin, il y a un bon moment, sur le cru. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dans le raw food, le cru.
Ouais.
Et c'est quoi ton avis dessus en tant que futur naturopathe?
Ben, en fait, alors, enfin, le concept, c'est très bien de vouloir se rapprocher justement plus d'aliments moins transformés, plus naturels, etc. Mais en fait, le cru, le problème, c'est que c'est pas du tout adapté à toutes les personnes. C'est comme d'ailleurs le régime 100% vegan ou végétarien. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une alimentation avec un petit peu de viande, qui vont
Ouais.
pas pouvoir supporter manger que des céréales ou des légumineuses ou des protéines végétales. Donc en fait, manger cru, bon bah c'est bien, en fait, si tu le supportes bien, mais si tu as un terrain qui n'est pas fait pour, et ben en fait ça va t'apporter plus d'inconfort et de problèmes qu'autre chose. Donc du
Ouais.
coup, ça c'est le problème, c'est que en fait, avec la naturopathie, bah, ça, comme ça c'est un peu il y a eu tout un engouement, etc. Mais il y a beaucoup de conseils qui sont donnés, un peu généraux. Mais il ne faut pas oublier que donc c'est super intéressant, tous ces conseils, et ça permet d'aller découvrir des nouvelles pistes, etc. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des conseils généraux et qu'il faut toujours venir se rapporter ensuite à notre propre terrain, notre propre physiologie. Et ça passe, je pense, en fait, par l'écoute du corps, par la connaissance de son propre corre. Et personne, même un naturopathe, personne ne va connaître mieux que vous-même, en fait. Enfin, oui,
Ouais.
personne ne va mieux se connaître que vous-même. Donc, du
Ouais, même le
coup,
meilleur naturopathe, il pourra jamais vous conseiller mieux que
bah, que
vous-même.
vous-même, que
Enfin,
votre
pas vous
corps, en fait.
conseiller, mais ouais. Voilà.
Et du coup, voilà, c'est ça, c'est que bah, le cru, si t'as vu passer une annonce, un truc de naturopathie qui fait promotion du cru ou du jeûne ou de n'importe
Ou
en fait,
de la détox. Parlons de
voilà,
ça.
n'importe en fait, j'ai envie de dire, bah essaye. Si tu vois que ça te fait du bien, cool, tant mieux, continue. Si tu vois que t'as mal au ventre et que ça va pas mieux, c'est que c'est pas pour toi. Et c'est tout en fait. Voilà, je pense que ça passe
Ouais, ça veut
surtout
pas
par
dire que c'est une
l'écoute du corps, quoi.
arnaque. Ouais, ça veut pas dire que c'est une arnaque la détox ou un truc comme ou que ton praticien était une arnaque. C'est juste que en fait. On donne les meilleures pistes et voilà, et
Oui,
après
voilà,
c'est
c'est
le
ça.
corps qui choisit.
C'est ça. Et en fait, je veux dire, comment savoir si on n'essaye pas?
Ouais.
Comment savoir si on arrive à bien digérer les lentilles, si on ne mange pas de lentilles? Enfin, je veux dire, voilà, on essaye. Et puis, si on voit que ça fait du bien, eh bien, tant mieux. Et si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave. Il y a plein d'autres pistes. Il y a tellement d'autres
Ouais.
pistes. Je veux dire, il y a le cru, mais il y a tellement de choses.
Ouais.
Dans l'alimentation, on a des possibilités vraiment bah, pour chaque terrain, en fait. C'est s'adapter et s'adapter à son propre terrain, à soi.
On peut même aller plus loin dans ça en disant que en général en France, on n'aime pas l'échec. Donc on n'aime pas essayer et se rendre compte qu'on a tort et recommencer un nouveau truc. Et c'est que ce soit dans l'alimentation ou dans les projets professionnels, quoi. On n'aime pas échouer.
Ouais, mais pourtant, je pense que ça passe bah, le travail sur soi et ça passe beaucoup par ça en fait. Ça passe par le
Par
fait de.
l'échec, oui.
Oui, voilà, bah, par le fait d'essayer
Ouais.
et de d'expérimenter.
Ouais, c'est ça. Exactement. Bon! Je pense qu'on a dit pas mal de choses sur la médecine et la naturopathie et ce n'était absolument pas prévu.
Oui, complètement. En fait, on a complètement dérivé
C'était
du.
super, ouais.
Mais alors,
Non
moi, quand
mais...
tu me lances sur un sujet, mais laisse tomber, je pourrais t'en parler 10 000 heures, donc faut faire attention avec moi.
On t'en remercie parce que t'as dit pas mal, enfin plein de choses super intéressantes. Je pense que je couperai l'épisode en deux. Oui, il y aura bien une partie 2. Désolée pour le suspense. Dans cette partie 2, on va parler d'ayahuasca. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode qui est complètement incroyable. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, It's Amel Yoga et The Inner Journey Pod pour rester au courant des futurs épisodes. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à le partager avec vos amis afin que ce podcast puisse avoir une très longue vie. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire les épisodes et à partager avec vous en fait tout ce que je connais et j'espère que cela vous aidera sur votre chemin de vie. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye!